Je suis Marie-Sophie Berruet, alias Marisol la minimaliste, votre animatrice aujourd'hui qui a une invitée spéciale avec elle. Donc aujourd'hui, j'accueille Sophie Cornelier, une aventurière autant dans sa vie privée et professionnelle qui vit maintenant depuis plus de 8 ans sur un voilier à temps plein. Vous allez voir, elle n'est pas avec nous aujourd'hui en studio, elle est loin, loin, loin de nous, dans le sud. Dans la chaleur, sur son bateau. Elle enseigne la voile, elle enseigne la météorologie. Elle a un bagage énorme durant les 20 dernières années, en fait, et elle a choisi de vivre la vie de nomade. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, du nomadisme, de ce mode de vie-là, qui est différent, mais qu'on fait par choix.
Si t'as l'impression que ta maison ne te ressemble plus, t'as la sensation d'étouffer dans tes objets perdus, tu n'es plus bien chez toi, t'as envie de fuir ta demeure, t'as beau soigner ton extérieur, tu craques à l'intérieur. Ton espace qui est plein d'objets inutiles, le podcast de Marisol va rendre ta vie plus facile. Marisol, la minimaliste, elle épure ton univers et rend ta vie plus simpliste. Marisol minimaliste.
Donc Sophie, bonjour, bienvenue aujourd'hui avec moi dans l'émission. Je suis bien contente de t'accueillir.
Ben, le plaisir est pour moi, Marie-Sophie. Ouais, le plaisir est pour moi. Je me souviens l'année passée, on était ensemble pour une entrevue justement, puis les rôles étaient inversés. Donc, c'est un grand plaisir de me prêter au jeu avec toi.
Mais oui, je suis bien contente. En effet, ça fait une petite année qu'on s'est rencontrés justement parce que tu avais lancé aussi un réseau d'affaires, en fait, pour les nomades qu'on va parler un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, je veux plus que tu parles un peu de qu'est-ce qui t'a amené à ce mode de vie-là. Comment on décide à un moment donné de devenir nomade?
Je te dirais, la première chose, j'ai toujours voyagé. Le premier, je me souviens pas du premier voyage que j'ai fait avec mes parents. Je sais qu'on a vécu en Corée pendant une bonne période de temps. J'étais toute petite, je devais avoir 3 ans. Ensuite de ça, au Québec, on a déménagé à quelques reprises. Mais j'ai toujours voyagé avec mes parents. Ils m'ont amené partout avec eux. Donc, on a fait, que ce soit la côte est américaine, la côte ouest américaine. On est venu dans les Antilles. Après ça, j'ai eu l'occasion d'aller en Europe en échange. J'ai eu l'occasion d'aller en Angleterre. J'ai vécu au Vietnam pendant un petit bout de temps pour les études. Donc, le voyage a toujours fait partie de ma vie. C'est quelqu'un qui a tout le temps la bougeotte, ben c'est un peu moi. Puis j'ai étudié en géographie, donc pour moi, il y a plein de concepts, tu sais, de les frontières, ce truc-là, ça faisait pas de sens. Puis j'ai toujours voulu aller voir, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, comment. On a juste une terre, une belle petite boule bleue. C'est comme on peut pas se contenter de rester dans une petite ville puis pas explorer, pas aller voir le reste. Pour moi, ça faisait pas de sens. Je pense que le nomadisme coule dans mes veines. Puis le voilier, ben pour moi, ça a été le choix un peu logique. Plus loin, je me souviens, si je devais avoir 8 ans la première fois, j'ai commencé à rêver de faire le tour du monde en voilier. Puis après ça, ben le voilier, pour moi, c'était le choix logique en ce sens que tu te déplaces avec le vent. Donc, au niveau de ton empreinte carbone, au niveau de ton empreinte sur l'environnement, ben oui, tu as un moteur, oui, tu consommes du diesel, mais s'il y a pétrole au milieu de l'océan ou en pleine navigation, puis que je décide que je ne le pars pas, le moteur, ben je ne le pars pas, puis je me laisse dériver. Tu sais, on est autonome avec l'électricité, on est pratiquement autonome avec l'eau. Pour moi, c'était le choix logique de partir en voilier, puis de traîner ma maison avec moi partout où j'allais. Comme ça, ben, je l'ai fait avec les enfants, là. C'est le bonheur, voyager avec les enfants. Puis j'imagine en VR, c'est la même chose, parce que tu te déplaces avec ta maison. Tu n'as pas d'histoire de file d'attente à l'aéroport pour de la sécurité, du ça, trimballer des valises, des bagages. La nourriture, ben, quand tu es en navigation, si tu as faim et tu as le goût de te faire un café, tu peux le faire, ton café. Il n'y en a pas de problème. Tu veux juste faire un casse-tête. Tu peux le faire, hein, le casse-tête. T'sais. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, la vraie de vraie, pas la classe à faire, mais tu sais, la première classe pour oui. Moi, là, c'est le luxe de me déplacer avec ma maison puis toutes mes affaires, puis j'ai pas à me passer la tête de voyager léger, voyager lourd, enregistrer des valises ou quoi que ce soit. Je vais où je veux, quand je veux, comment je veux, puis ça a pas de prix, là.
Ça prend juste un passeport puis les visas qu'il faut pour. Mais en effet, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis j'ai commencé à le vivre là, depuis que je vis dans le bus également. Puis je l'ai vécu cet été avec les vacances, c'est de partir. Puis là, mon chum, lui, il a fait sa petite valise. Qu'est-ce que j'amène et tout. Puis moi, je me suis dit, mais je vais pas à me poser la question parce que tout mon stock vient avec moi. Donc, je vais de toute façon avoir toutes mes affaires avec moi. Donc, c'est vraiment cette
Ben
espèce de feeling d'être l'escargot, là, d'avoir notre maison sur le dos puis de pouvoir aller s'installer partout. Puis ce que je trouve intéressant que tu dis aussi, c'est que le nomadisme, je pense qu'il y a des gens qui sont foncièrement ces nomades, en fait, qui l'ont en eux, puis qui le savent peut-être même pas. Moi, je le savais même pas, là, tu sais, mais quand je suis partie de la Suisse avec
ah,
ma petite
clairement.
valise, je suis arrivée au Québec, puis j'ai fait comme, ah, OK, puis tu sais, pour moi, c'était juste un voyage comme un autre. Mais finalement, je pense qu'en effet, quand on a cette bougeotte, moi, j'étais aussi 2, 3 ans toujours à la même place, puis il fallait que je bouge parce que je m'ennuyais. Donc, tu sais, je pense qu'en effet, il y a des
Oui.
gens qui l'ont en eux, puis ils le savent peut-être même pas.
Tu parles d'avoir la bougeotte qui bougeait aux 2, 3 ans, ben, moi, je l'ai vécu aussi au niveau professionnel, tu sais, dans le travail. Tu arrives dans une organisation, OK, en dedans de 3 mois, j'ai fait le tour. Tu sais, j'ai travaillé dans le domaine gouvernemental, municipal, mais j'ai étudié aussi en ressources humaines, puis en diagnostic organisationnel, puis ces trucs-là. Fait que, tu sais, je me souviens d'avoir été embauchée dans des endroits, entre autres le Mont Hopper. Le propriétaire, il me dit, ben, j'aimerais ça, tu sais, que tu me dresses un bilan, un portrait, tu sais, qu'est-ce qui, selon toi, marche pas? Là, tu sais, après 2 jours à la station de ski, puis je suis allée le voir, je fais, ben, voilà, tu sais, il y a tac, 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 qui fonctionne pas. Puis, tu sais, le gars, il me regarde, c'est parce que ça fait 2 jours que tu es ici, comment ça, tu as dit ça? Ben, parce que c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis, en dedans de 2 jours, j'ai fait le tour, j'ai vu ce qui marchait pas, puis j'ai vu pourquoi est-ce que tes employés produisent pas. Puis partout où je suis passée, ben, c'est comme ça, tu sais, après 2 mois, 6 mois, je pense que le maximum que j'ai fait, c'est 2 ans, ben, c'est le tour est fait, et bon, ben, OK, donne-moi du défi, donne-moi quelque chose, parce que sinon, je m'en vais, je vais m'aller voir ailleurs, parce que je m'emmerde, tu
Ouais, ben c'est souvent ça, je pense
sais.
qu'il va chercher les nomades un peu aussi, c'est ce côté
Oui.
aventure, sortir de la zone de confort, d'être confronté à des nouvelles affaires, à devoir apprendre des nouvelles choses aussi, de devoir s'adapter tout le temps un peu. Je pense qu'on recherche foncièrement en fait ce genre de choses-là, que c'est ça qui vient nous driver vraiment.
Oui, puis je pense aussi que l'aspect entrepreneurial, tu sais, vient aussi donner un coup de pouce, tu sais. T'es entrepreneur, ben c'est cool parce que tu gères tes affaires en termes d'horaires, en termes de présence, de location. Mais aujourd'hui, avec les technologies, ben c'est en guillemets facile d'être nomade puis de continuer à travailler, puis d'avoir une activité professionnelle, puis d'avoir la bougeotte, puis d'être tout le temps stimulé, puis d'avoir quelque chose pour justement répondre à ton besoin que ce soit de liberté, de stimulation intellectuelle, mais sociale aussi et autres.
Exact. Le nomadisme, tu sais, je pense qu'en plus, il est accessible à tout le monde. Il y a des gens peut-être comme toi puis moi qui l'ont vraiment, qui coule dans nos veines, tu sais, ça fait partie de nous parce que ça a toujours été là puis qu'on a ce besoin-là. Mais je pense qu'il y a des gens qui peut-être aimeraient le faire, mais qui, tu sais, osent pas ou pensent que, tu sais, c'est trop compliqué ou que c'est difficile. Qu'est-ce que toi,
Clairement.
tu conseillerais ou qu'est-ce que tu penses de ça aussi, que les gens qui se privent de pouvoir le faire, mais que tu sais, parce que il y a des craintes.
Ceux qui viennent nous dire, ah, t'es donc chanceuse, toi, de faire ça. C'est pas une question de chance. T'sais. Ma chance, je l'ai faite, c'est un choix que je fais. Ben oui, c'est ça. Il y a énormément de gens qui ont des blocages, qui ont des pensées limitantes, qui ont des freins. Pour paraphraser Karine Champagne, ça prend 20 secondes de courage pour prendre la décision puis faire le move. Une fois que le move est fait, ben c'est comme si les pièces de casse-tête tombent toutes en place. Hein. Mais oui, la peur, moi, le problème, c'est que j'ai pas reconnu ça.
Ouais, c'est ça. Donc, cette peur-là, en fait, devient plus une drive, je dirais. On t'a une petite
Ouais.
fille hein, qui est avec toi sur le bateau, là, que
Oui.
Sophie. Sophie n'est pas seule sur son bateau. Elle a un chum
Non, Sophie n'est
avec
pas
une petite fille qui vit avec elle sur le bateau. On va en parler aussi un petit peu de la vie en famille sur bateau. Je pense que c'est ça, cette peur, en fait, devient une drive, devient une excitation. Au lieu que ce soit un frein,
Ouais.
si on se laisse aller à ça, c'est vraiment quelque chose qui devient une motivation. Puis oui, c'est des choix, puis oui, c'est pas toujours facile, tu sais, parce que des fois, les gens pensent en
Ah
effet,
non, c'est clair ça.
ils voient le côté très Pinterest puis très Instagram de c'est quoi être nomade, mais oui, il y a des difficultés. C'est pas juste de tout le temps, tu sais, je te portraitais justement comme t'es sur un bateau, t'es dans le sud, c'est le fun, mais oui, il y a
Mais
aussi
en
des
même temps,
tempêtes, il y a aussi des choses difficiles.
ouais, il y a des tempêtes, les tempêtes météorologiques, les vraies tempêtes, il y a les tempêtes de la vie aussi qui arrivent, mais je pense que moi, je dirais j'ai le bonheur facile, tu sais, puis j'ai cette faculté de, même dans les pires situations, de réussir à avoir du fun puis à trouver ça trippant, là, tu sais. Je te dirais, le pire exemple que je peux te donner, c'est quand j'ai eu le cancer en 2018, tu sais, ben, j'ai eu des traitements à Porto Rico, j'ai eu des traitements en France. Le 2 ans de traitement au total, ben, j'ai quand même tripé ma vie parce que j'étais encore vivante, parce que j'avais des gens qui s'occupaient de moi, parce que ça m'a amené à voyager puis à faire des trucs que j'aurais probablement pas fait sinon, puis pour défaire les blocages et les peurs.
Oui, vraiment, vraiment, puis se laisser tenter. Puis par contre aussi, je pense que c'est des choses qui se préparent. Parce que être nomade du jour au lendemain, c'est pas quelque chose comme ça qu'on décide que, OK, demain, je vis de maison, puis je m'en vais de même, là, tu sais. Donc, tu sais, au niveau de la préparation, toi, mettons, tu sais, quand tu as décidé de partir en voilier et tout, c'est quoi? Parce que tu étais quand même à la base au Québec, tu étais là, puis tout, puis c'est quoi le move? Comment ça s'est passé, cette préparation-là, pour te dire, OK, je m'en vais
Et
en bateau?
bon. On s'était fixé au départ 5 ans pour préparer le projet.
Quand
Donc,
même.
partir de zéro à nomade. Moi, je savais que la journée où je partais du Québec, je ne reviendrais pas. Je le savais fondamentalement. Ma mère, m'a demandé, ben, comment tu vas faire pour savoir si tu sais, si tu aimes ça. J'ai dit, ben, on va l'essayer pour 2 ans. Puis, après, on verra. C'est un peu, comment on dit ça, un mensonge blanc.
Parce que tu savais très bien.
Alors moi, je le savais que j'ai toujours voulu être à l'international, ça a toujours été, mais on a pris 5 ans pour, un, faire des formations autant théoriques que pratiques. Moi, je suis allée chercher de la formation aussi au niveau des premiers soins médicaux en cas d'urgence, etc., là, tu sais, pour être capable de, si jamais tu es au milieu de l'océan et qu'il se passe quelque chose, ben, tu es capable de réagir. Puis après 4 ans, moi, j'ai pris, non, je suis plus capable. Là. Ah ouais, j'étais prête. Fait que tout doucement, ce qu'on a fait au fur et à mesure, c'est qu'on a diminué, tu sais, on a minimalisé notre vie. On est passé d'une maison, 3 étages total, à un petit condo tout meublé. Donc, tu sais, on s'est défait de la maison, j'ai fait des meubles, les 2 voitures. Après ça, ben, ça a été, c'est ça, un petit condo, 2 chambres, qui était tout meublé, donc on n'avait pas à se casser la tête. Puis après ça, on a bougé sur le bateau vraiment à temps plein. Entre-temps, les étés, on faisait déjà de la voile au Québec, donc nos étés, on les passait de toute façon sur le voilier. C'était, ouais, tant qu'on a fait le move, ça a été un peu différent. L'adaptation, ouais, moi, j'ai pas eu de problème d'adaptation. Je te dirais, par contre, mon ex, ouais, ça a dû prendre une année à peu près au moins pour
OK.
s'adapter au mode de vie. Puis encore là, vois-tu, lui, en 2000, ben 2017, en fait, il est retourné au Québec pour reprendre le travail. Puis ben, il est encore au Québec à travailler.
Ouais, c'est ça. Donc lui, ça a pas convenu ce
Non.
mode de vie-là, là.
Ben, il trouvait ça le fun, tu sais, les mouillages, l'espèce de vie sociale, tu sais, avec les apéros, les ci, les ça, mais tout ce qui était, je pense, entretien, planification, les navigations, tu sais, ça, c'était moins sa tasse de thé. Puis, au niveau financier, ben, c'est quelqu'un qui a une plus grande insécurité que moi, je peux avoir. Tu sais, moi, non, je sais que je vais m'en sortir, puis je sais que ça va finir par marcher de toute façon. Donc, j'avais pas d'inquiétude que le projet fonctionnerait. Mais lui, il avait plus d'inquiétude, tu sais, que s'il ne retournait pas travailler, ben, il n'y aurait pas assez d'argent qui rentrerait.
Oui, ça c'est sûr que c'est des inquiétudes que
Tu
les gens vont avoir en effet quand on voit le mode de vie nomade. On se dit qu'on est sur la route, sur l'eau, sur whatever. Mais c'est sûr qu'il y a ce côté de justement de cette constance, mettons, du revenu, des finances, des choses comme ça qui peut avoir une inquiétude en effet, parce que, tu sais, quand on est sur la route ou en voyage ou en déplacement, c'est en effet, on n'a pas une job fixe qu'on a tout le temps, tu sais, tout, à moins que justement, beaucoup d'entrepreneurs sont nomades parce que c'est une possibilité justement qu'on a en tant qu'entrepreneur de pouvoir, comme tu le disais, de choisir son horaire, de s'adapter, d'avoir une clientèle aussi qui peut être à différentes places. Mais quand on a un travail plus classique, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est de voir comment on peut adapter ou comment on peut changer sa vie professionnelle pour pouvoir rentrer dans cette vie nomade, dans le fond.
Je pense aussi que faut arrêter de penser que être nomade, ça veut absolument dire d'être sur l'eau ou sur la route 365 jours par année. Je pense qu'être nomade, c'est un état d'esprit. Moi, j'ai des amis qui sont profs au secondaire, puis c'est des nomades. L'année scolaire, ils la font en Ontario, au Québec, bon, peu importe, mais tu sais, ils enseignent durant l'année scolaire, puis durant tous les congés, ben, oublie ça, tu les retrouveras pas parce qu'ils sont en voyage, ils sont en déplacement, ils vont visiter, ils vont explorer. Puis durant l'année scolaire, ben, une de mes amies, elle a choisi de faire du tourisme d'aventure. C'est ce qu'elle enseigne aussi à ses étudiants. Donc, elle est tout le temps en train de les amener à différents endroits dans des limites géographiques plus restreintes, mais elle les promène, elle leur fait découvrir toutes sortes de choses. Donc, c'est une nomade avec une job fixe, mais c'est une nomade pareil. J'ai une autre copine qui est femme de militaire, ben, ils sont appelés à se déplacer aux 2, 3 ans. Ils n'en ont pas de maison au Québec ou en Ontario. Ils se déplacent, puis ils se promènent, puis elle a dit, ben, moi, je m'installe pour 2 ans, 3 ans à un endroit, puis c'est mon point de chute, puis on explore autour. Un peu comme Isabelle, tu sais, là, ils sont au Mexique. Il y a d'autres destinations qui les intéressent. Ils vont s'installer peut-être, je sais pas, en Italie ou pour 6 mois, 1 an. Puis après ça, ils vont se déplacer. Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être nomade. C'est toi avec tes tripes, comment tu te sens, puis ça marche-tu, ça marche pas. Puis la journée où ça marche plus, tu n'aimes plus un endroit, ben regarde, on prend notre pack sac, on prend notre bateau, on prend notre VR, on prend un ticket de train, d'autobus, d'avion, puis on change de place là-dessus. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre des freins puis dire ah oui, je voudrais être nomade, mais moi je me sens ben oui. Yes. Si tu te sens pas à l'aise d'être nomade 365 jours par année, ben sois-le le mois de vacances que tu as dans ton année ou le 2 mois de vacances que tu as dans ton année. Puis peut-être qu'un jour tu vas dire ben j'en peux plus, ou peut-être tu vas dire ben moi ça me convient parfaitement, puis je continue comme ça.
Je trouve ça vraiment, vraiment un point important, en effet, parce que c'est vrai que on a de la pression des fois par rapport à l'extérieur, par rapport à la société. Tu sais, je le vis également en ce moment. Moi, je suis rendue stationnaire pour l'instant avec mon bus parce qu'il n'est pas encore prêt justement pour tout, pour pouvoir vraiment prendre la route. Et là, les gens sont comme, OK, mais t'es pas sur la route, t'es pas parti, t'es pas encore. Puis je suis comme, non, pas encore, mais tu sais, je vis quand même le mode de vie, puis j'ai quand même. C'est un mindset plus qu'autre chose, je pense. Puis ça, je
Oui.
pense. Cette facilité de prendre nos racines aussi, puis d'aller s'installer, puis de les redéposer ailleurs, puis de les reprendre, puis de les replanter ailleurs, puis que c'est ça, là, de bouger, tu sais, ça. Moi, j'ai été stationnaire aussi plusieurs fois, tu sais, comme j'étais 3 ans à Gaspésie, 2 ans à Tremblant, là, ça fait un petit peu plus longtemps que je suis à Québec, mais tu sais, c'est ça, c'est cette possibilité de se dire qu'on peut partir, qu'on peut avoir ce choix
Oui, je pense
simplement.
que ça apporte un bon point. Je pense que dans l'état d'esprit, de savoir que tu as la possibilité de lever l'ancre, de partir ton moteur, de t'enlever sur le parc, puis partir, je pense que ça y fait pour beaucoup. C'est comme là, je regarde mon horaire, ben, ma possibilité d'horaire pour l'automne. C'est sûr que oui, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me déplacer. On veut aller voir les Grenadines, on veut aller voir Grenade, Cariacou, peut-être les Los Roques, qui sont des îles du Venezuela. Puis en même temps, je me dis, ben, ouais, OK, peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout voir ça parce que, oui, à quelque part, à un moment donné, ben, il va falloir que j'ancre le bateau dans un endroit où j'ai de la connexion Internet et où je vais pouvoir me connecter pour que ce soit moi suivre les cours que je suis en train de suivre ou encore donner mes cours ou faire des accompagnements. Non, je me mets plus de pression de dire. Puis je pense que c'est aussi un des freins, un des éléments qui fait que ça peut tourner un peu vinaigre des fois. Moi, je le vois sur les bateaux. C'est que les gens se disent, ah, moi, je pars faire le tour du monde, puis je veux le faire en 2 ans, je veux le faire en 3 ans, en 5 ans. Et c'est pratiquement plus comme un bucket list que comme un mode de vie comme tel. Fait que là, ils se mettent de la pression de dire, ben, il faut que je voie un minimum de tant de pays, mais il faut pas que je passe trop de temps, mais il faut que je puisse visiter. Puis là, ben, tu les vois, là, ça arrive, tu sais, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou ailleurs. Là, ben, OK, il y a tel endroit qui sont listés dans les guides nautiques, comme quoi qui sont des endroits à voir. OK, on va passer 2 jours là, 2 jours là, 2 jours là. OK, une semaine en Guadeloupe, après ça, oups, on fly ailleurs, tu sais. Puis au final, ben, oui, tu voyages, mais tu fais un voyage qui est plus frustrant que d'autres choses parce que, tu sais, de te déposer pour sentir la vibe de l'endroit. Tu sais, en Guadeloupe, j'ai passé quasiment 9 mois. Puis c'est dans les derniers mois où on a découvert une petite baie où il y a un petit bar de plage. Et là, ben, dans le bar de plage, à tous les dimanches, ce ne sont que des locaux qui viennent jouer du guoka. Le guoka, c'est un gros tambour. Et tu danses, mais c'est capoté parce que tu as quasiment un orchestre de guoka. Tu en as trois principaux, puis tu as des gens en arrière qui chantent, qui font des vocalises. Et le danseur, ben, il doit connecter avec le joueur de guoka du centre, qui est celui qui est le leader. Et c'est la connexion entre les deux. Donc, le joueur de guoka, il accompagne la danse du
Okay.
danseur. Donc, c'est pas le danseur qui danse au rythme de la musique, c'est la musique qui suit le danseur.
Okay.
Fait pour qu'il y ait une connexion qui s'établisse, mais ça, c'est une place où il n'y a pas un seul touriste qui y va ou à peu près. Mais faut que tu prennes le temps d'explorer pour les trouver, ces places-là. Faut que tu prennes le temps de connecter avec des gens de la place pour réussir à savoir ces affaires-là, tu sais.
Non, je pense que ces gens, en effet, là, on passe à côté, en fait, de ce qui est l'essence d'être nomade. C'est pas juste, dans le fond, de voyager puis de voir le plus de pays possible puis de faire couvrir le plus de terrain possible, le plus de kilomètres
Non,
possible. C'est pas ça,
non.
en effet. C'est de créer des connexions avec les gens, de rencontrer des cultures différentes, de voir d'autres personnes, de modes de vie aussi différents. Quand on va
Ben oui.
justement dans d'autres pays, on se rend compte que les gens ont des cultures différentes, mais vivent différemment de ce que nous, on connaît peut-être en Amérique du Nord ou en Europe ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment ça, cette connexion, en effet, avec les gens, je pense, qui vient être un facteur commun chez tous les nomades.
Moi, je regarde les gens. J'ai pas un tour du monde en bateau de fait. Par contre, moi, j'ai peut-être l'équivalent d'un tour du monde de voyage au total. Oui, il y a des différences culturelles. Il y a des différences d'histoire, de lieux géographiques. Mais au final, les êtres humains, partout où tu vas, ça reste des êtres humains. Puis à quelque part, on est tous pareils. Puis moi, j'arrive avec ma personnalité, puis je pense que j'ai une propre vibe, puis je suis pas, tu sais, je suis pas mal tout le temps souriante quand je me promène dans la rue, puis il n'y a pas un endroit dans le monde où j'ai pas été accueillie à bras ouverts. Tu sais, je suis arrivée aux Bahamas la première fois, puis la douanière est sortie de son poste de douane pour m'embrasser, me faire des câlins en me disant qu'elle était donc contente que je vienne visiter son pays. On se connaît pas. Mais, tu sais, à Porto Rico, j'avais des problèmes avec mon passeport canadien, puis bon, parce qu'il m'est arrivé une niaiserie, donc j'avais un check dans mon dossier, fait qu'à chaque fois que je passais aux douanes américaines, ben, c'était l'interrogatoire. Tu sais, je suis revenue de la République dominicaine avec le traversier, puis là, ils ont fait, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ça a pris 4 heures, mais j'avais le bureau de douane au complet qui était assis autour de moi pour écouter mon histoire et refaire la chronologie dans mon dossier pour être sûr que j'ai plus jamais de problème en me présentant en territoire américain. C'est comme sortir un peu de ce qui est à faire pour eux autres. Il n'y a pas personne qui leur dit c'est ça ta job,
C'est vraiment ça, c'est la connexion humaine qui nous ramène à
là.
ça. C'est ces rencontres, puis c'est drôle parce que j'en parlais avec d'autres personnes qui sont venues faire des entrevues durant la saison de l'émission. C'est toujours ça qui revient. Les gens, quand on en parle, ils ne disent pas, ah, j'ai vécu tel pays. Ils disent, ah, tu sais, j'ai rencontré tel monsieur dans les montagnes qui m'a partagé telle affaire. Puis c'est ça, dans le fond, ces souvenirs-là qu'on construit dans ces voyages-là, j'imagine.
Ouais.
Cette partie-là, en fait, qui est complètement différente que quand on voyage juste pour voyager. Tu sais, que c'est ça, là, que c'est juste pour aller dans une destination ou pour justement juste décrocher et tout. Quand on voyage ou qu'on est nomade, ben c'est vraiment cette espèce d'intégration qu'on fait par rapport aux gens, par rapport à tout ce qu'on voit autour de nous qui finit par faire partie de nous un peu, là, qu'on finit par intégrer en nous.
Ouais, c'est plus juste, comme tu dis, la destination. C'est le voyage en soi qui est le voyage. Il y a des endroits où j'ai visité, entre autres Saint-Martin, tu sais, qui est une île qui a rien d'extraordinaire, on va se le dire, là. Saint-Martin, il y a le côté français, il y a le côté Dutch. Oui, c'est cool parce que c'est détaxé, donc dans les Antilles, d'avoir un endroit où tu payes pas de taxes quand tu as des pièces de bateau à acheter, on se le cachera pas. C'est intéressant. Ça fait de l'argent économisé. Tu sais, avec un VR, tu sais ce que ça peut coûter. Quand tu tombes dans des domaines spécialisés, ben, le bateau, c'est la même chose. Tu sais, tu rajoutes un, deux, trois zéros par rapport au prix régulier que tu paierais à terre. Puis quand tu es dans les Antilles ou dans des îles, ben, là, au niveau de l'approvisionnement, tout se fait par avion, par cargo et compagnie. Donc, les coûts sont pas les mêmes. Puis Saint-Martin, ben, au niveau environnement, il y a rien capoté. Au niveau culture, non plus. Comparativement à Porto Rico, où Porto Rico, ben, il y a une école de ballet, il y a un orchestre philharmonique, il y a un orchestre symphonique, il y a du théâtre, il y a une vie culturelle qui est trippante à Porto Rico. Saint-Martin, non, t'as pas ça. Par contre, moi, j'ai rencontré des gens à Saint-Martin, des coups de cœur d'amitié. Je me souviens, le gérant du Island Waterworld, qui est un magasin, ben, on s'est recroisés à Marie-Galante, en Guadeloupe. Un an plus tard, puis il fait comme Sophie, tu sais, je te retrouve. On est allé à Saint-Martin cet été, puis il était de retour à Saint-Martin finalement parce que son trip de traverser le Pacifique n'avait pas marché. Ben, tu sais, on s'est retrouvé là. Puis, fait que, tu sais, c'est des
Ouais.
rencontres que tu fais avec les gens qui sont signifiantes, qui sont significatives, puis qui font aussi que tu as le goût de continuer. Ouais, qui font aussi que tu restes vivant parce que c'est ce piment-là. De rencontrer des gens, de découvrir des gens, de connecter avec les gens partout où tu passes, tu sais, puis d'en savoir un petit peu plus sur eux, sur leur vie, leur culture, qu'est-ce qu'ils ont traversé, puis
Leur
ouais.
parcours, dans le fond aussi, exactement, parce qu'on a
Ouais,
tous
c'est
des
ça.
parcours différents, mais qui sont enrichissants les uns pour les autres, en effet. On entend
Ouais.
la petite fille sur ton bateau, là, et tout qui placote en
Ben oui.
arrière-plan. Comment c'est la vie aussi? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme moi, tu sais, le nomadisme, tout ça, c'est possible quand tu es seul. Tu sais, on imagine toujours que c'est quelque chose que tu fais un trip d'aventurier quand tu es seul, mais comment ça se passe en famille?
Ouais, après 8 ans, j'ai quand même quelques expériences. On est parti d'abord en famille avec ma fille, mon chum. Après ça, je me suis retrouvée toute seule sur le bateau avec mes 2 enfants. J'ai été toute seule sur le bateau. Pas de chum, pas d'enfant. J'ai été aussi monoparentale avec mon plus vieux. Puis là, ben, on est en famille recomposée, comme on dit. Je te dirais que toutes les options sont envisageables, faisables, qui sont trippantes, chacune apportant son lot de défis, son lot de plus, de moins. Puis en famille, ben, c'est trippant, tu sais, de voir Marilou qui grandit, qui se développe. Puis, tu sais, le bateau, pour elle, c'est sa seule maison. Elle a toujours vécu sur un bateau. Donc, elle va avoir 3 ans, puis de la voir se promener sur le bateau, grimper partout. Puis elle a une agilité qui est incroyable. Elle a une force physique aussi, tu sais, parce que ben, c'est pas une vie, pas comme sur la Terre, tu es tout le temps en mouvement. Donc, les stabilisateurs fonctionnent tout le temps. Même si, tu sais, on fait pas des marathons tous les jours, on va pas courir tous les jours, mais ben, juste de vivre sur le bateau fait en sorte que c'est plus physique que si je travaillais de 9 à 5 dans un bureau. Fait que ça, je trouve ça vraiment capoté. Le faire en solo, ben aussi, c'est le fun parce que tu as une liberté de mouvement qui n'est pas la même, mais en même temps, de le partager, c'est ça qui est cool, tu sais, d'avoir quelqu'un avec qui partager. Puis après ça, ben, les enfants, tu sais, de voir les yeux pétiller quand ils découvrent quelque chose, quand ils un nouveau mot de vocabulaire. C'est sûr que Marilou, un nouveau vocabulaire, ben, je pense que bâbord, tribord, c'est plus intégré que
Gauche-droite.
station-service ou, tu sais, ben, ma plus jeune, Thalie, ça a été ça, tu sais. Thalie, tu ne demandais pas gauche-droite, tu me disais bâbord, tribord, puis là, ah, OK, le pied bâbord, ça marchait, mais le pied gauche, ça marchait pas.
Ça marchait pas. C'est drôle, c'est vraiment drôle. Les enfants s'adaptent.
C'est une grande voile, il n'y avait pas de problème. Tu sais, Tali, elle avait 6 ans, puis on a refait le safran du bateau à l'époque. Ben, tu sais, elle nous avait fait une vidéo de 2 minutes sur comment on refait un safran. Tu sais, comment on avait fait le moule en plâtre, comment on avait fait les coquilles, comment on avait fait l'assemblage. Tu sais. Fait que c'est des savoirs différents, c'est des compétences différentes, mais que tu peux facilement, moi je dis, transversaliser. Parce que je regarde Tali quand elle est arrivée en Ontario en 2018, ben, elle n'était jamais allée à l'école. Puis à l'école, il était super inquiet parce que, oh mon Dieu, une enfant qui n'est pas scolarisée, puis tu sais, il ne savait pas vraiment comment gérer ça. Puis au final, ben, ils l'ont mis en 5e année, puis elle a fait sa 5e, sa 6e avec les autres, parce que c'est l'âge qu'elle avait, même si ça a été 2 années de défis puis de gros travail pour elle. Mais aujourd'hui, ouais. Elle est au high school en spécialisation hors études. Puis après, puis elle sait où elle s'en va, puis elle sait où elle veut aller. Puis elle est pleinement consciente des efforts que ça lui demande et pleinement volontaire pour fournir ces efforts-là. Ouais. À partir du moment où ils ont un objectif en tête, ben ils savent où ils veulent aller, puis ils sont prêts à faire ce que ça demande pour y aller. Puis ça, c'est quoi que j'ai vu chez tous les enfants. Que ce soit les enfants bateaux ou les enfants nomades qui sont scolarisés d'autres façons que la classe de 30 élèves de la maternelle au cégep.
Ça développe comme une genre de force de caractère, j'ai un peu l'impression, là, tu sais, ouais. De détermination aussi, puis d'apprendre que tout oui. n'est pas acquis là aussi, puis que justement, ça met un effort pour faire les choses, puis que... Il y a toujours un prix à payer pour tout, parce que justement, quand on disait que les gens idéalisent un peu aussi le nomadisme et tout ça, qu'on voit que les beaux côtés, puis que c'est toujours un don bien merveilleux, mais il y a des moments difficiles aussi, puis c'est ça qui, je pense, aussi forge justement cette force et ce mindset, parce que c'est ça, là, on est des gens qu'on devient très débrouillards, en effet, tu sais, c'est pas la même,
oui.
pas la même intelligence, c'est peut-être pas l'intelligence, justement, forcément académique qu'on prône tout le temps, dans notre monde classique, là. Mais c'est une intelligence différente où on doit justement apprendre à se débrouiller, apprendre à analyser ce qui se passe autour de nous, essayer de s'adapter, de comprendre, puis de rebondir aussi.
Oui, puis ça développe une intelligence, j'aime pas le mot de survie, mais d'apprendre à justement être capable, dans n'importe quelle situation, de tirer le meilleur parti, puis ouais, de survivre, de vivre, de faire en sorte que ça marche. Moi, je me souviens, j'ai une copine, sa petite fille était trisomique. Elle me disait, mais moi, ma fille, je vois pas pourquoi je l'enverrais à l'école. Ça va être que des frustrations parce que au niveau intellectuel, elle ne sera jamais capable de faire ce qu'on lui demande à la vitesse qu'on lui demande. Par contre, moi, je veux l'outiller pour qu'elle soit capable de se débrouiller dans la vie, qu'elle soit capable de lire. Puis être suffisamment à l'aise avec la lecture, avec les mathématiques pour lire un contrat de location d'appartement, lire un contrat d'achat pour une auto ou pour des biens, être capable de réparer sa plomberie si jamais ça casse, être capable de faire de l'électricité, être capable de faire pousser, tu sais, des légumes, des fruits. Moi, je veux qu'elle soit capable de vivre, puis de s'occuper d'elle-même, puis d'être autonome. Mm-hmm. Pas dépendre de Pierre-Jean-Jacques autour. Puis ça, ben, quand tu es sur un bateau, quand tu es nomade, il n'y a pas plus permanent que le changement. Tu changes de milieu régulièrement, tu changes de pays, ben, tu t'adaptes constamment. Je pense que c'est un des éléments aussi, moi, que j'ai remarqué, qui fait qu'il y a des familles, en tout cas, qui abandonnent un peu le projet, c'est que tu es en constante adaptation. Puis oui. quand tu es en bateau, puis en autobus, c'est probablement la même chose, puis tu passes des frontières. Ben, c'est pas comme quand tu arrives à l'aéroport, là, il y a un beau tapis rouge, tu passes à la petite guérite, on tamponne ton passeport, puis les douanes sont faites, l'immigration est faite, la santé, tout est fait. Non, quand tu arrives en bateau, ben, faut que tu t'ancres ou que tu ailles à une marina, puis tu trouves c'est où le bureau de douane. Puis là, ben, tu vas au bureau de douane, puis souvent, on va dire, ben, il y a le bureau d'immigration, puis il y a le bureau de la santé ou de l'alimentation, l'équivalent de pêche et alimentation ou le ministère de l'Agriculture. Puis là, ben, il y a des endroits où ils vont venir sur ton bateau pour inspecter, voir est-ce que tu as des armes, qu'est-ce que tu as comme aliment. Puis ça change d'un endroit à l'autre. Puis il faut que tu le trouves. Il y a des endroits où il faut que tu demandes des visas d'avance. Il y a des endroits où tu dois utiliser un agent. Fait que veux pas, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est aussi du stress parce que c'est tout le temps de l'inconnu, puis ça change à chaque fois. Fait que j'en reviens encore au slow motion ou au slow living, mais si tu le fais en disant, ben, je vais passer une semaine à chaque endroit, ben, c'est sûr que tu augmentes ton niveau de stress parce qu'à toutes les semaines, tu recommences ce processus-là. En fait, c'est que tu le finis même pas de l'intégrer, puis de réussir à jouir de où tu es parce que aussitôt arrivé, ben, faut que tu planifies ton prochain déplacement. Alors
Exact.
que si tu prends le temps d'arriver, de savourer l'endroit, puis là, ben, une fois que, tu sais, moi, c'est une fois que mes tripes me disent, ouais, ben, c'est bon, là, on a fait le tour, puis on a le goût de faire autre chose, ben, là, tu passes à autre chose, t'étires un peu, puis le stress est moindre, là, tu sais.
Non, puis c'est vrai ce que tu dis parce que je l'ai vécu là. J'ai vécu juste 2 semaines de vacances avec le bus de partir. Puis tu sais, au début, on avait prévu de se faire un itinéraire que on s'arrête à chaque nuit quelque part. Puis là, finalement, moi, j'étais comme, ah, oh, je suis vraiment fatiguée. Je pense j'ai plus le goût de me déposer. Puis on est tellement content d'avoir fait ça. Finalement, on était 5 nuits à une place, puis 5 autres nuits à une autre place. Puis la route entre les places là et tout, on était brûlés parce que en bus, mettons, c'est que tout bouge, tout craque, tout fait du bruit, tout était en
Là,
alerte,
bateau
tout le.
aussi.
Puis en bateau, c'est la même affaire parce que ça tangue, ça bouge. Il faut se préparer pour partir aussi. Là, il faut tout attacher, il faut tout enlever ce qui est sur les
Ben
comptoirs,
ouais.
les affaires de main.
C'est ce
Du
qu'on
temps.
fait, nous, ce matin. On est en train de préparer le bateau parce que, tu sais, c'est pas long, là.
Non!
Puis c'est un peu la différence aussi quand t'es nomade à temps plein versus avoir un autobus ou une van pour les vacances d'été ou avoir un bateau pour les fins de semaine. C'est que nous, c'est notre maison, on vit. Fait que, tu sais, la vaisselle, les plantes, les œufs, les ci, les ça. Ben là, tu sais, un matin, ouais, on va faire peut-être, tu sais, comme 3 heures de navigation, là. On va partir vers 11 heures, on va arriver vers 1 heure et demie, 2 heures. Pour 3 heures de navigation, il faut tout ranger comme si on partait faire une transatlantique.
Exact, exact. Tu dois tout, en effet. Puis même, moi, si je dois sortir juste pour aller remplir, mettons, d'essence ou de propane, c'est la même affaire. Faut tout que
Oui.
j'attache comme si je partais pour un grand trip, mais même si ça va juste
Ben oui.
à 5 minutes d'ici. Donc, c'est vrai, c'est vraiment une adaptation. Puis ça demande du dépôt entre chaque place parce que justement, il y a une logistique avec tous les déplacements puis tout ça. Puis que justement, les gens qui veulent, qui font des voyages en disant on fait le tour du monde en un an, bien, ils passent, comme on disait, un peu à côté de la traque parce qu'ils vont passer tellement de temps à juste faire ça, à monter, démonter leur setup, que finalement, ils ne profitent pas du voyage en tant que tel. Puis c'est très demandant ces moments de déplacement ou, comme tu dis, les choses de douane ou d'affaires de même ou de stress, de bris mécanique aussi qui peut arriver ou des choses comme ça, qui fait que finalement, bien oui, c'est le fun de se déplacer, mais ce qui est le fun aussi, c'est de s'ancrer à chacune des places puis de prendre le temps justement de découvrir l'endroit en tant que tel.
Ouais. Ah oui, totalement. Puis, bon, moi, je le vois pas comme un problème. Nous, on a une petite fille de 3 ans, ben, en navigation, une petite fille de 3 ans, ça se gère pas comme un adolescent, tu sais. Fait que, faut avoir une vigilance qui est constante aussi, tu sais. Que, ouais, moi, j'aime bien prendre le temps de me déposer, puis j'aime la navigation. Honnêtement, tu me dirais, Sophie, je te donne une baguette magique. Si j'avais Oui, un rêve à réaliser. Je m'en cache pas là. Que ce soit la Volvo Ocean Race ou le Vendée Globe ou la Clipper Around the World, partir puis dire je fais un tour du monde sans escale, que ce soit en équipe ou en solo, pour vraiment faire de la navigation, accumuler des milles, oui, je le ferais. Tu me donnes l'opportunité de le faire demain matin, je le ferais. Mais pour mieux revenir après à ma vie nomade. Slow living, tranquillou, puis on visite, puis on explore, puis on se dépose, puis
Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Dans le fond, ça,
ben non.
c'est plus des aventures, dans le fond, ou un trip en tant que tel, puis que finalement, tu sais, qui se fait dans une vie, tu sais, et tout. Puis, tu sais, je le sais, moi aussi, quand je suis avec le bus, je me suis rendu compte que se déplacer, oui, il y a le côté plus bruyant, puis un peu stressant, mais il y a le côté le fun, pareil, quand on est sur la route, puis qu'on est, entre guillemets, différent, parce que là, les gens aussi
Oui.
reconnaissent le bus, puis ben, voient que c'est différent. On a des babayes, on a des coups de klaxon, des affaires de même, puis on fait « Ah, oh, c'est donc mais le fun! » Donc, il y a vraiment un côté trippant à ça aussi, que, puis quand toi aussi, en voilier, de passer d'un port à l'autre, puis des gens qui te découvrent, qui font « Oh mon Dieu, tu vis sur le bateau », puis tout ça. Donc, C'est vraiment quelque chose qui attire l'attention puis qui vient comme justement faciliter ces connexions. J'ai l'impression qu'on ne le fait pas au
Oui.
quotidien quand on va à l'épicerie parce qu'on est justement dans entre guillemets, la normalité. Mais quand on sort un petit peu de l'ordinaire comme ça, on va attirer l'œil, on va attirer des sourires et tout ça. Puis on dirait que ça crée automatiquement une espèce de petite connexion.
Ouais, définitivement les connexions. Puis après, ouais, avec les enfants, ben là, tu partout où on va, tu leur dis, ben oui, on est sur notre voilier. Ah, avec un bébé, puis, tu sais, ça aussi, ça facilite là. Un bébé, un sourire, un bonjour dans la langue locale, tu sais, puis
Ça
toutes
ouvre
les
toutes les
portes s'ouvrent
portes.
à peu près là. Ah oui, totalement, totalement.
Parlons un peu de nomadisme et d'entrepreneuriat parce que je sais, on s'est parlé justement il y a un an par rapport à ça. Tu avais parti, dans le fond, le réseau des nomades en affaires. Donc, parlons un peu de ça, ce projet-là, puis c'est quoi, comment on peut aussi se joindre à ce groupe-là si jamais on est nomade, puis qu'on est en affaires, puis qu'on est entrepreneur, puis qu'on veut avoir une communauté.
Le réseau des nomades en affaires, l'idée m'est venue parce que, puis avec la pandémie, veut, veut pas, ça l'a, je pense que ça l'a eu une influence, mais il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus attendre d'être à la retraite pour partir puis voyager. Puis les gens se cherchent, ont des questions sur la logistique, sur comment le faire. C'est, veulent continuer à travailler ou doivent continuer à travailler. L'idée de ça, c'est de dire, ben, OK, on fait un réseau qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir interagir entre eux, s'entraider, donc répondre aux questions, que ce soit en VR, que c'est vraiment pour tous les nomades de le réseau, que ce soit en autobus, à pied, en vélo, en bateau, en train, en avion, en VR, que tu sois expatrié parce que tu travailles pour une compagnie, ou c'est vraiment nomade dans le sens vraiment de l'état d'esprit des gens. Comme il y a des gens de tous les modes de transport, ben, il y a aussi des gens de tous les milieux professionnels, de tout type d'activités professionnelles. Ultimement, moi, ce que je voudrais, c'est faire en sorte que le réseau y ait un abonnement annuel, que les gens qui s'abonnent aient accès aux services des autres entrepreneurs qui sont là. T'sais, il y a des graphistes, il y a des avocats, il y a des comptables, il y a des inspecteurs maritimes, il y a des mécaniciens, il y a des gens de tous les domaines. T'sais, on est rendu à plus de 1 000 membres. Puis j'avoue, là, je fais mon mea culpa. J'ai pas fait d'activité de promotion. On n'a pas, le réseau vit beaucoup par lui-même parce que je l'anime pas énormément de ce temps-là. Puis les gens posent des questions, les gens se répondent. Ça bouge pareil parce qu'il y a un besoin. Mais l'idée, c'est ça. À terme, c'est de faire en sorte que, un peu comme le réseau des maires en affaires, d'avoir des gens qui ont des biens, des services à offrir. D'autres qui ont des besoins pour ces biens, ces services-là, puis faire une communauté d'économie circulaire.
Les nomades, justement, on est comme aux quatre coins éparpillés et tout. Puis grâce à la technologie, puis oui, un peu aussi avec la pandémie où on a dû un peu se réadapter, puis où on a pu justement travailler plus avec le web, puis avec le en ligne, puis les choses comme ça permet cette connexion entre tout ce monde-là et de permettre de s'entraider beaucoup parce que je pense que ça fait partie beaucoup aussi du mindset de nomade, de l'entraide, de vraiment vouloir s'encourager, de vouloir partager, puis de vouloir permettre à ce que tout le monde soit capable de vivre ce mode de vie-là de manière sereine et positive. Et oui, il y a plein de domaines qui permettent ça, dans le fond, et qui font qu'on peut justement s'entraider là-dedans. Donc, ce réseau-là va permettre ça. Donc, on peut le trouver. Donc, dans le fond, il est basé, je pense, sur Facebook principalement pour l'instant.
Pour l'instant, il est sur Facebook uniquement, donc Réseau des nomades en affaires. C'est moi qui fais l'acceptation des demandes, donc vous envoyez votre demande et je
Donc,
révise
c'est
le
ça.
dossier, j'accepte ou je refuse.
C'est ça, les gens qui nous écoutent, si jamais ça vous intéresse, que ça vous parle, que vous sentez justement nomade, que vous sentez peut-être un peu isolé, parce que ça peut arriver des fois qu'on se sente un petit peu isolé dans notre mode de vie,
Tellement.
quand notre famille ne nous comprend pas, quand notre entourage ou tout ça ne nous comprend pas forcément, de pouvoir parler à des gens qui vivent les mêmes choses que nous, qui vivent les mêmes défis que nous, ben c'est toujours, ça fait du bien, ça fait un petit baume sur le cœur aussi. Des fois, on se dit, ah, je suis pas tout seul à vivre telle ou telle affaire ou tel défi.
Oui.
Donc, c'est super le fun. C'est vraiment une communauté où on peut se parler, où on peut se conseiller, où on peut se rassurer. s'encourager. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, le réseau des nomades en affaires, le groupe Facebook. Donc, vous pouvez aller voir ça et suivre ça parce qu'il va y avoir peut-être des choses qui vont arriver et tout. Et en tout cas, c'est une belle communauté avec laquelle on peut partager. Vous pouvez poser des questions également si vous voulez vous partir en affaires ou que vous voulez rendre votre entreprise nomade. Mettons, ça aussi, on parlait de sa vie privée, de la rendre nomade, c'est quelque chose, mais de rendre son entreprise nomade, c'est quelque chose aussi. Tu sais, moi, je suis en train de faire le move en ce moment. Puis, c'est des choses qu'il faut mettre en place, de pouvoir se dire que justement, que ouais, tout devient en ligne, que ce soit sur le web et tout.
C'est ça. Si tu regardes sur le réseau, tu sais, je te dirais, je dois connaître à peu près 90 % des membres du réseau. Ben, tu sais, je sais qu'on a des entrepreneurs qui sont spécialisés, que ce soit en démarrage d'entreprise. On a des entrepreneurs comme Annie Technologies, ben, qui est spécialisée au niveau informatique, sécurité informatique. Isabelle Nantel, qui est spécialisée en démarrage d'entreprise. Geneviève Hébert au niveau du branding. Tu sais, fait que, il y a plein d'entrepreneurs comme ça, même toi au niveau, tu sais, des défis minimalistes.
De se désencombrer avant de partir, en effet.
Ben oui. Puis moi, je le vois dans les familles bateaux parce que, tu sais, je suis membre d'autres réseaux, d'autres groupes. Des gens qui font de la voile, tu sais, puis je les vois, les questions que les gens se posent, tu sais, en partant, mais comment on fait pour passer d'une maison qui fait 300 mètres, 400 mètres carrés à un bateau qui fait même pas 50 mètres carrés, là, tu sais?
Oh oui, il y a plein de défis, en fait, à se préparer justement pour être nomade et tout, des choses qu'on ne pense pas forcément au départ, puis tout d'un coup, oups, qui viennent en fait se présenter au long du projet. Mais c'est ça, donc oui, il y a plein d'autres défis, il y a plein de choses qui peuvent justement apparaître, mais c'est aussi justement cette aventure, ce côté positif, il y a tellement de belles choses à vivre, de belles connexions, de rencontres à faire. Donc, Sophie, si on veut te suivre, justement, donc on a le réseau des nomades en affaires, mais comment sinon on peut te suivre aussi personnellement, j'imagine, sur les réseaux sociaux?
Ben oui, Facebook, Instagram, c'est Sophie Cornelier. Oui. Ma page pro, c'est Coach Nomade.
Coach Nomade, ben oui.
Sortir, Puis, ben oui, c'est ça. On a Merci la vie aussi, qui est, nous, ce qu'on fait sur le bateau, c'est que, justement, pour aider les gens à découvrir c'est quoi être nomade sur l'eau, mais vraiment, c'est pas louer un bateau charter ou quelque chose comme ça pour des vacances, mais vraiment des vacances où on donne une immersion aux gens de ce que c'est notre vie. Donc, on accueille un couple à la fois sur le bateau. Et c'est vraiment une expérience super exclusive. Les gens peuvent venir passer une semaine ou 10 jours ou 2 semaines pour découvrir ben, c'est quoi la vraie vie de bateau d'une famille nomade. Donc, on fait ça.
Wow!
Merci la vie.
Merci la vie sur Facebook aussi, ouais, hein, qu'on peut voir le groupe et tout pour que vous puissiez. Donc, si ça vous tente de vivre l'aventure, d'essayer de voir si vivre sur un bateau pourrait être un mode de vie qui vous intéresse, vous pouvez essayer de contacter Sophie Cornelier. Donc, Merci la vie sur Facebook ou Sophie Cornelier. Vous allez la trouver facilement. Elle va vous se faire un plaisir de répondre à vos questions parce qu'elle adore partager. Donc, merci à tous. Voilà. Merci, Sophie.
Merci.
C'est chaos dans ton organisation résidentielle. T'es enseveli, englouti de matériel non essentiel. Ça te prend un processus de désencombrement. L'approche de Marisol est compréhensive sans jugement. Ton espace est plein d'objets inutiles. Les conseils de Marisol vont rendre ta vie plus facile. Marisol, la minimaliste, elle épure ton univers et rend ta vie plus simpliste. Marisol minimaliste, t'as l'impression que ta maison ne te ressemble plus. T'as la sensation d'étouffer dans tes objets perdus. Tu n'es plus bien chez toi, t'as envie de fuir ta demeure. T'as beau soigner ton extérieur, tu craques à l'intérieur. Ton espace est plein d'objets inutiles. Le podcast de Marisol va rendre ta vie plus facile. Marisol, la minimaliste, elle épure ton univers et rend ta vie plus simpliste. Ma Marisol minimaliste.